CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors aujourd'hui, on vous présente une réussite assez folle qui est toute récente, puisque nous allons parler de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et c'est presque une revanche sur la vie que le réseau social le plus vaste de la planète ait été créé par ce jeune timide et solitaire. On y va, on s'intéresse à son profil.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, l'histoire de Mark Zuckerberg débute en 1984 dans la banlieue éloignée de New York.
Oui, effectivement, il naît en 1884 dans la grande banlieue plutôt aisée de New York. Donc son père est dentiste, sa famille, on va dire classe moyenne supérieure. Donc il a une enfance plutôt privilégiée. On le surnomme même le prince quand il est petit.
Donc
il a
donc trois... une enfance aisée, quoi.
Oui, voilà, il a trois sœurs, c'est le seul garçon. Il est un peu chouchouté. C'est une enfance totalement aisé. C'est un enfant, comme tu l'as dit, Mickaël, timide, plutôt réservé. D'ailleurs, c'est des traits de caractère qui conservera à l'âge adulte. Et très brillant à l'école. C'est-à-dire qu'il a plusieurs années d'avance scolairement. Il s'ennuie même, en fait, à l'école parce qu'il apprend très facilement. Donc, il s'ennuie en classe et il développe une passion pour l'informatique.
Très tôt, à 12 ans.
Oui, vers 12 ans. Alors, il est passionné de beaucoup de choses. Hein. Il s'intéresse aussi à l'histoire, à la politique. C'est un esprit très vif, mais notamment l'informatique qui retient son attention. Donc, il passe beaucoup de son temps libre à bricoler des ordinateurs, à faire du code, ce genre de choses, comme font les gens passionnés d'informatique. On peut presque voir cette passion pour l'informatique comme un peu en miroir de sa timidité. Hein. C'est probablement un peu une façon de...
Il se réfugie un peu.
Voilà, il se réfugie un peu. C'est une discipline qui lui permet de s'épanouir alors que les contacts qu'il a avec les autres ne sont pas toujours très, très aisés.
Le fait qu'il soit un peu en avance et qu'il soit timide va faire que rapidement il va partir pour un établissement un peu réputé et quitter le cursus un peu normal.
Oui, donc il a probablement subi un petit peu de bizutage, de moquerie à l'école. Donc il avait plusieurs années d'avance, donc c'était le plus petit de sa classe. Déjà qu'il a un physique plutôt fluet, qu'il est timide, etc. Donc ça se passait pas forcément très bien à l'école. Donc il change d'établissement, il va dans un établissement, on va dire, très réputé pour très bons élèves. Donc c'est toujours un élève aussi brillant. Et grâce à ce parcours scolaire, on peut dire sans faute, il va intégrer la prestigieuse université Harvard, où il étudie l'informatique et la psychologie en parallèle.
Donc il est brillant, il est intello, il a notamment développé avant d'arriver à Harvard en terminale une application qui s'appelle Synapse sur de la musique. Et donc du coup, ce profil un peu brillant et intello, il le garde aussi à Harvard et il va devenir un vrai geek.
Oui, alors c'est vraiment le profil du geek avec son sweat à capuche, timide, maladroit avec les filles et qui se réfugie un peu dans l'informatique. Donc il est très brillant et il parvient à pirater les serveurs d'Harvard et à organiser, on peut dire, un embryon de réseau social. Il organise en fait une sorte de concours de beauté. Donc il prend le trombinoscope de l'université, il met toutes les photos en ligne et les étudiants peuvent cliquer pour dire qu'ils sont les plus beaux et aussi les plus moches. En fait, ça vire un peu à la blague de mauvais goût où on se moque de ceux qui ont les têtes les plus bizarres sur leurs photos d'identité. Donc ça s'appelle The Face Match, cette espèce de concours de beauté. Alors ça a des répercussions importantes. Alors déjà, il manque de se faire virer de l'université.
Oui, parce que là, il pirate quand même.
Oui, il pirate. Alors lui dit, mais non, je vous ai aidé parce que je vous montre que votre système est piratable. Bon, alors les présidents de l'université d'Harvard ne voient pas trop les choses comme ça.
Ils sont
ça.
Pas d'accord.
Ils frôlent la porte de peu, mais ce qui est important, c'est qu'il va acquérir, on peut dire, une certaine notoriété sur le campus d'Harvard et il va attirer l'attention d'autres étudiants, notamment les jumeaux Winklevoss, donc qui sont eux aussi étudiants à Harvard. C'est un peu ce genre de profil à qui tout réussit. Donc ils sont d'une famille riche, ils sont beaux, ils sont athlétiques, ils sont intelligents parce qu'ils étudient à Harvard, donc ils sont sûrement un peu assez intelligents, ils ont plein d'idées. Et eux ont une idée de... Alors, on n'appelle pas ça encore réseau social, mais c'est un peu ça qu'ils ont en tête. Et ils sont nuls en informatique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter Mark, rentrer en relation avec Mark, puisqu'ils ont entendu parler de lui.
Oui, il a une toute nouvelle notoriété à cause de Face Match.
Il devient connu sur le campus. Et il va commencer à développer un embryon de réseau social, donc avec les frères Winklevoss. Alors, c'est là où c'est un petit peu difficile de démêler le vrai du faux, puisque les frères Winklevoss vont dire que l'idée de ce qui deviendra Facebook, c'est eux qui l'ont eue et que Mark Zuckerberg leur a piqué, et lui dira « mais pas du tout, j'avais l'idée avant, bon c'est vrai qu'on s'est vu sur le campus, mais en fait leur idée elle était nulle, c'est pas du tout ça ». Alors bon, il y a chacun a sa version, on peut difficilement se prononcer, même il y a eu des procès dont le résultat d'ailleurs a été gardé secret, donc il semblerait que les frères Winklevoss aient gagné beaucoup d'argent en faisant un procès à Mark Zuckerberg, qui leur aurait volé leur idée. Le problème, c'est que rien n'était signé, hein, et ça se faisait entre copains de campus.
Oui, parce qu'il faut resituer le truc, c'est que tout le monde est étudiant, ça se parle dans les couloirs, j'ai cette idée, est-ce que tu peux m'aider ? Enfin, voilà.
Et... Voilà, exactement, c'était pas un contrat formalisé, un contrat de travail formalisé, où Mark Zuckerberg avait signé, oui, je développe un projet pour les frères Winklevoss, etc.
Surtout qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce que c'est maintenant, et que personne ne pouvait imaginer que cette idée, Facebook deviendrait ça.
Oui, bien sûr. Facebook, c'est, on peut dire, le premier réseau social d'ampleur. Donc, ça bourgeonnait dans la tête de plein d'étudiants. Alors après, pour savoir qui vraiment a eu la première idée, peut-être que chacun a eu un peu une idée et c'est difficile de savoir précisément qui a eu quelle idée à quel moment et qui a eu l'antériorité, on peut dire, sur l'idée de Facebook.
Avant d'embrayer sur Facebook et tout ce que ça entraînera, aller à Harvard, ça a aussi entraîné de faire certaines rencontres qui vont être importantes dans la construction de sa vie et même de Facebook.
Oui, alors Harvard, c'est vraiment le grand vivier américain, l'université extrêmement prestigieuse. Et donc, il va rencontrer, alors bon, sa femme déjà.
Mais, c'est déjà important, oui.
Voilà, c'est important, mais aussi d'autres camarades d'université. On pense notamment à Eduardo Saverin, qui est un étudiant brésilien qui a gagné déjà beaucoup d'argent en bourse. Et quand Mark Zuckerberg commence à avoir l'idée de Facebook, alors The Facebook au début, hein, le The a été enlevé ensuite, il cherche des capitaux pour se lancer, parce que lui il a l'idée, il est bon en informatique, mais il lui faut un petit peu d'argent. Et donc ça va notamment être Eduardo Saverin qui va être un des premiers investisseurs. Donc pour $1,000, il va prendre au début 30% de Facebook.
Il va bien vouloir se lancer avec lui.
Voilà, ça va être son associé pour apporter des fonds au début dans Facebook.
Donc là, on est au tout début de l'année 2004. Il y a le problème avec les deux frères qui, eux, voulaient construire Harvard Connection. Mais en parallèle, donc Mark Zuckerberg, lui, lance le 4 février 2004 The Facebook.
Voilà, donc The Facebook, qu'on peut traduire par le trombinoscope en français, donc est lancé début 2004. Et au début, c'est un réseau social qui se veut alors réservé dans un premier temps aux étudiants d'Harvard, puis aux étudiants d'autres grandes universités américaines. Mais en fait, le succès est très rapide. Et donc, très rapidement, le réseau social qui était au début pensé comme un réseau social au sein du monde universitaire devient accessible à tout le monde comme il l'est aujourd'hui. Et donc, dès le début, le réseau social, la page de Facebook, se présente de manière en fait presque similaire à ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, dès le début, Facebook naît dans une version, on peut dire, presque définitive en fait.
Ce qui pousse Mark Zuckerberg à quitter rapidement Harvard et à partir pour la Silicon Valley, parce que lui, il y croit dur comme fer.
Oui, alors le cœur du monde informatique américain est dans la Silicon Valley, donc près de San Francisco, de l'autre côté du pays. Et donc Mark Zuckerberg, qui n'est pas encore diplômé d'Harvard, plaque tout pour partir dans la Silicon Valley. Ça fait un peu penser au profil de Bill Gates, hein, qui était étudiant à Harvard, qui avait bricolé ses premiers logiciels à Harvard, et qui était parti de l'université avant d'en être diplômé pour fonder Microsoft. Donc il arrive dans la Silicon Valley, il loue une petite maison avec ses premiers associés et salariés, et très vite le réseau social va prendre de l'ampleur, parce qu'en fait ils ont la chance d'être les premiers sur ce créneau-là.
Pendant ce temps, son associé légendaire, celui qui a apporté les fonds, lui, il reste à Harvard pour continuer ses études.
Voilà, donc Eduardo Saverin reste à Harvard, donc ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et Mark Zuckerberg va, de manière plus ou moins discrète et plus ou moins perfide, on pourrait presque dire, va évincer Eduardo Saverin. Donc il y aura à nouveau un clash entre les deux et à nouveau des procès dont le résultat n'a pas été rendu public, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien Mark Zuckerberg a donné à Eduardo Saverin pour lui racheter ses parts. On a évoqué la somme de 2 milliards, mais c'est une spéculation. Donc après le scandale avec les frères le scandale, on va dire le procès avec les frères Winklevoss, il y a aussi un procès avec Eduardo Saverin. Donc Mark Zuckerberg a été un petit peu critiqué pour se fâcher avec beaucoup de ses associés et peut-être ou probablement pour parfois un petit peu leur marcher sur les pieds ou les utiliser quand il en a besoin et les oublier quand il n'en a plus besoin.
Là, on a l'impression que l'histoire de Facebook, pour l'instant, c'est des successions de couteaux dans le dos.
Alors, un petit peu. C'est Mark Zuckerberg n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement populaire, notamment parce que on lui reproche d'avoir bâti son réseau social en, il faut le dire, peut-être trahissant quelquefois quelques associés ou amis ou collègues, en tout cas, à l'université.
Et ça, ça dresse quand même un portrait de Mark Zuckerberg. C'est pas un super communicant, c'est pas un super manager. Il garde quand même ce côté très timide en lui.
Oui, il est resté très timide. Bon, c'est un trait de caractère qu'il avait depuis l'enfance. C'est pas un très bon communicant quand il fait des, quand il participe à des émissions de télévision. C'est pas forcément un succès. On va dire que il est pas forcément très à l'aise en public. Ces techniques de management sont assez critiquées. C'est quelqu'un qui a été décrit comme étant froid, cassant, avec des salariés en burn-out, des gens virés un peu d'un claquement de doigts. Il semblerait qu'on ne soit pas en présence d'un patron forcément extrêmement sympathique, extrêmement charismatique. Le personnage a quand même souvent été critiqué on va dire pour des relations sociales un peu froides et un peu utilitaristes. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'un associé ou d'un salarié parce qu'il peut m'être utile, je lui fais les yeux doux et je viens travailler avec lui. Et puis dès que j'en ai plus besoin, au revoir, je te mets de côté et je passe à autre chose. Donc c'est vrai que le personnage est un petit peu controversé.
Cela n'empêche pas à Facebook, évidemment, de cartonner. Et en 2012, il y a l'entrée en bourse de la société.
Voilà, Facebook entre en bourse en 2012. Alors, sur le coup, c'est pas trop un succès parce que Facebook entre au prix de $38 l'action. Alors, beaucoup d'analystes jugent que c'est trop élevé. D'ailleurs, le cours boursier perd en quelques semaines la moitié de sa valeur. Mais bon, on sait tous que Facebook est devenu. Et sur le long terme, c'est évidemment un énorme succès.
Hein. Mais c'est vrai qu'en 2012, les gens pensaient que ça n'allait pas durer, Facebook.
En tout cas, ils ne pensaient pas que ça valait $38 l'action. C'est-à-dire que le succès de Facebook a vraiment cru au fil du temps, et notamment après avec le rachat de WhatsApp et d'Instagram, hein, puisque Facebook, c'est vraiment un empire du numérique. Hein, c'est le F de GAFA. Aujourd'hui, c'est vraiment un géant. Mais beaucoup de gens pensaient que quand Facebook s'est introduit en bourse, beaucoup d'analystes estimaient que les profits futurs de l'entreprise n'allaient pas être ce qu'ils ont été. Et bon, depuis, le cours boursier s'est envolé. On est autour de $260 l'action. Donc, quand on pense qu'il s'était introduit à $38 il y a à peine 10 ans, c'est vraiment un succès énorme.
D'autant plus que le modèle économique de Facebook est un peu comme Google, maintenant une des références de modèle économique sur Internet.
Oui, donc c'est typiquement le modèle économique de l'Internet, c'est-à-dire que c'est gratuit. Donc l'utilisateur ne paye rien. Il paye, entre guillemets, en offrant son temps d'attention à la plateforme. Donc Facebook connaît très bien ses utilisateurs, puisqu'en fonction de ce qu'on poste, de ce qu'on like, de ce avec qui on est ami, on connaît les goûts des utilisateurs et donc ça permet de faire de la publicité ciblée. Et donc les annonceurs, les entreprises sont évidemment très friandes de cette publicité puisqu'elle leur permet d'adresser leur message publicitaire exactement à la personne qu'elles veulent selon ses goûts. Donc c'est un business model qui n'est pas propre à Facebook, hein. YouTube, Google, en fait tout ce qui fonctionne sur l'Internet sur la base du gratuit fonctionne avec le même business model. On ne donne pas d'argent, mais on informe la plateforme de qui on est. Et en sachant qui on est, on nous sélectionne de la publicité qui nous touche le plus directement.
D'autant plus qu'une des forces de Mark Zuckerberg, c'est que lui, la pub, il ne veut pas qu'elle soit ultra présente sur Facebook. La pub est quasiment invisible, on n'a pas l'impression que c'est de la pub.
Oui, c'est vrai que, par exemple, quand on est sur YouTube, souvent on voit la publicité au début de la vidéo ou au milieu. Sur Facebook, c'est plus subtil, disons. Alors, bien sûr, il y a de la publicité, mais qui souvent va, par exemple, être maquillée comme étant un poste d'un ami. C'est pas des gros bandeaux publicitaires qui vont s'afficher en plein milieu de l'écran, parce que ça ferait un peu racoleur, ça ferait pas très joli, ça ferait fuir les utilisateurs. Donc, c'est une publicité, on va dire, insidieuse ou discrète, mais efficace, puisque on n'a pas forcément l'impression que c'est de la publicité, et donc on peut y être d'autant plus réceptif.
Le profil de Mark Zuckerberg, cette collecte de données et de data sur les utilisateurs énormes, évidemment, ça va entraîner des controverses.
Oui, alors notamment sur des questions politiques, puisque Facebook connaît aussi très bien les opinions politiques de ses utilisateurs. Donc, au moment, par exemple, de la campagne de Donald Trump, il y a eu, tout le mandat même de Donald Trump, il y a eu beaucoup de débats sur dans quelle mesure Facebook doit relayer des messages qui pourraient avoir des contenus haineux, des contenus racistes, etc. Donc, le poids de Facebook, et d'ailleurs de Twitter, hein, c'est pas propre à Facebook, leur influence sur la sphère politique et sur les opinions politiques des utilisateurs, on peut penser au mouvement des Gilets jaunes hein, en France, qui est né sur Facebook et qui a grandi sur Facebook. Donc, le poids politique de Facebook et Twitter et d'autres plateformes est très important, et la régulation, en fait, elle est assez opaque. On ne sait pas très très bien, clairement, pourquoi Facebook décide de mettre en avant plutôt tel message politique ou tel autre. Donc c'est vrai que Facebook et les GAFA, d'une manière générale, hein, sont très critiqués pour avoir une influence sur l'opinion des gens importante, mais de manière en fait assez opaque, hein, puisqu'on ne sait pas vraiment l'algorithme, pourquoi il décide de mettre tel contenu politique en avant plutôt que tel autre.
Et malgré le portrait que l'on pourrait penser de Mark Zuckerberg, il y a de la complexité dans le personnage, parce que d'un côté, il est très critiqué, et de l'autre, il est un peu philanthrope aussi.
Oui, donc comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, ils donnent à des causes humanitaires, donc notamment, il a donné de grosses sommes sur des projets éducatifs. Mais il reste critiqué, puisque d'un côté, Facebook pratique de l'optimisation fiscale assez agressive, et d'un autre côté, Mark Zuckerberg donne de l'argent à des causes philanthropiques. Donc c'est le cas d'ailleurs de beaucoup des milliardaires américains qui sont un petit peu entre deux. D'un côté, c'est vrai qu'ils donnent beaucoup d'argent à des universités, à des laboratoires, à des hôpitaux, etc. D'un autre côté, ils font tout pour payer le moins d'impôts possible. Donc il y a un peu un entre-deux ou un pas de deux, disons, qui rend les personnages assez complexe et assez ambigu.
Une des dernières innovations de Mark Zuckerberg, ça va être d'essayer de se positionner aussi sur la crypto-monnaie.
Oui, donc il y a un projet de Facebook qui est de faire le Libra, donc qui serait une sorte de Bitcoin de Facebook. Donc c'est encore au stade de projet. Le projet a été retardé, je ne sais pas trop où est-ce qu'il va aboutir, ni quand. Donc le projet, c'est de faire une sorte de Bitcoin, mais qui soit adossé à des monnaies comme le dollar ou l'euro, pour éviter la volatilité du Bitcoin. Donc il y a beaucoup d'économistes, dont moi-même, faut le dire, qui sont assez sceptiques sur l'intérêt réel de la chose, au-delà de l'aspect médiatique et de surfer sur l'engouement autour du Bitcoin. Mais c'est une des innovations possibles de Facebook, et l'entreprise va probablement pas rester au stade du réseau social. C'est une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui va probablement essayer de lancer de nouvelles innovations pour continuer à croître dans le futur.
Même si certains disent qu'au fond, Mark Zuckerberg n'a réellement rien inventé, il a eu en tout cas le nez assez fin pour se positionner sur le créneau des réseaux sociaux à une époque où la place de gros leader était libre. L'histoire nous dira évidemment si Facebook va continuer à survivre à ses concurrents. Il n'empêche que nous continuerons sûrement pendant de nombreuses années à distribuer des likes sur Internet. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle histoire à écouter sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. Et puis pour vous, je vais changer un petit peu en vous invitant à liker CDI Podcast sur Facebook et chez ses concurrents. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.